Radio Campus Paris.
Et il est 19h01. Et un baiser pour ouvrir cette émission parce qu'on a besoin d'amour en ce moment, je le sens. Je vais vous raconter l'histoire d'une des premières fois où j'ai vu deux hommes s'embrasser. Tous les deux très grands, l'un blond, l'autre brun. Tous les deux avec des styles vestimentaires sommaires. Après une journée à flirter entre la piscine et la terrasse, ils s'embrassent donc devant les yeux médusés du jeune PD que j'étais. La scène se déroule dans les Sims. J'ai environ 15 ans et la version gratuite de ce jeu vidéo incontournable occupe mes après-midi interminables dans la petite maison de mes grands-parents paternels. Et c'est quand même assez dingue de me dire qu'un de mes premiers émois gay, c'était grâce aux Sims, un jeu vidéo qui fait pourtant l'éloge de la plus grande normalité. On vit dans des pavillons au milieu de grands lotissements à la Desperate Housewives, et le seul but est que la famille vive harmonieusement, que les enfants aillent à l'école le matin et reviennent le soir, que la vaisselle soit faite, que les repas soient servis et que les besoins primaires de chacun et chacune soient remplis à tout instant. Mais les Sims sont-ils si hétéros ? Retour en 1999, on est à E3, une grande convention sur les jeux vidéo à Los Angeles, et personne alors ne parle des Sims. La filiale EA Games, qui développe le jeu vidéo, pense même à l'abandonner purement et simplement. C'était sans compter sur un développeur, Patrick Barrett, un homme ouvertement gay. Cette même année, il est chargé de préparer 3 scènes de démonstration qui seraient projetées donc à E3 devant la presse. Et à la stupéfaction générale, pendant l'une des projections, 2 Sims tombent amoureuses et s'embrassent passionnément. Oui, 2 femmes. Immédiatement, les Sims sont au cœur de toutes les discussions et le voilà lancé sur la voie du succès que nous lui connaissons aujourd'hui. Alors le monde du jeu vidéo serait-il particulièrement ouvert aux relations LGBTI+ ? Ce n'est pas la conclusion que tire Patrick Barrett. Selon lui, c'est juste une histoire de mec hétéro ravi de pouvoir contrôler 2 lesbiennes dans un jeu vidéo. Il faut bien comprendre qu'avant l'intervention de Patrick Barrett, les relations gays ou lesbiennes étaient tout simplement bannies dans les Sims. Alors je pose la question, sans lui, que serais-je devenu ? Et d'ailleurs, 10 ans plus tard, un émoi comparable s'empare de moi quand Link enfile un crop top pour entrer dans la cité Gerudos, la ville réservée aux femmes dans Zelda Breath of the Wild. Et franchement, je me demande bien ce que les jeux vidéo ont encore à me révéler à moi-même. Bienvenue à tous.
Salut le lobby, ça va le lobby ?
Assez de société qui ne respecte pas les sensibilités.
5 syllabes, visibilité.
S'il vous plaît, je suis lesbienne.
Les questions LGBT sont pas des questions à part.
C'est parce que je pense pas que ce soit qu'une affaire privée.
Je pense que la parole doit être surtout donnée aux personnes concernées.
Ils sont dans les campagnes, dans les villes.
On m'entend des petits, les hommes sont dans la rue.
Ça n'a pas de rapport, mais je suis un tout petit peu hétérophobe.
On est des bad bitch.
Enfin, pardon, je parle mal là, mais
je raisonne jamais en termes d'espoir. Je raisonne en termes de ce qu'on peut agir.
Le lobby, Radio Campus Paris.
Et on est parti pour une heure de direct sur le 93.9 FM et quand vous voulez sur vos applications de podcast avec une équipe de folie ce soir. Et je commence par Diego. Comment ça va, Diego ?
Ça va très bien, Colin.
Plutôt les Sims ou Zelda ?
Plutôt Zelda.
Ok, à côté il y a Maram. Salut Maram.
Coucou, coucou, Colin.
Plutôt Animal Crossing ou Minecraft ?
Oh mon Dieu, je répondrai plus tard.
D'accord, je te laisse réfléchir, on fait un point avant 20h. On retrouve également Antonella. Salut Antonella.
Coucou coco.
Plutôt Mario Kart ou GTA ?
Clairement Mario Kart.
Et puis deux nouvelles voix ce soir, celle de Mal déjà, salut.
Bonsoir.
Plutôt Fortnite ou Final Fantasy ?
Final Fantasy.
Très bien, parfait, excellent choix. Et pour fermer la danse, Akina est avec nous, bienvenue Akina.
Salut.
Plutôt Tetris ou Resident Evil ?
Plutôt Tetris.
Ok, donc des gros geeks ce soir manifestement. Et pour nous accompagner en studio, 2 invités sont avec nous pour cette émission, donc très geek, vous l'aurez compris, aux alentours de 19h40, nous serons rejoints par Damness, c'est le secrétaire de l'association Next Gamer. Selon une étude américaine de 2024, 17% des joueurs s'identifieraient comme LGBT+. Peut-être donc que le marché du gaming, qui pèse plus que celui de la musique et du cinéma combinés, devrait davantage s'intéresser à nous. Mais avant, on plonge dans un genre de livre qui représente une vente sur 7 en France, le manga. Peut-être avez-vous exploré votre orientation sexuelle ou votre identité de genre avec des yaoi ou des yuri, et que ces termes vous soient familiers ou pas. Cette émission est pour vous au lendemain de la Japan Expo, où on s'intéresse aux représentations LGBT+ dans les mangas. Notre invité vient justement de publier un livre sur le sujet. Frédéric est avec nous jusqu'à 20h.
Le lobby Radio Campus Paris.
Et bonsoir Frédéric, pardon,
enchanté.
Ça commence bien, bienvenue.
Salut, salut. Donc je commence par une toute petite question. Donc tu vas tout nous dire sur toi.
Ah.
Donc on aimerait savoir si tu avais été un personnage de manga, qui aurais-tu été ?
Ah ouais, ça commence bien.
Ça commence fort.
Ouais, ouais, ça commence fort. Bonne clé dans One Piece.
Ah, il faut nous dire un petit peu plus ce que c'est, parce que vous avez vu, on n'est pas très geek, hein. On fait que semblant.
Bah, parce que c'est le premier personnage queer auquel je me suis identifié quand j'étais jeune, parce que One Piece, c'est l'œuvre avec laquelle j'ai grandi, qui était mon premier manga.
Et vous avez consacré votre précédent livre.
Ouais, c'était mon premier livre, c'était sur l'univers politique de One Piece, où je parle aussi des représentations queer. Et Bond Clay, c'était un personnage un peu loufoque, un peu en fait une sorte de ballerine. Qui est habillé en tutu ou autre, enfin maquillé un peu, qui peut être d'un côté un personnage un peu stéréotypé, mais d'un autre un personnage tellement cool qui à l'origine est un antagoniste et qui finalement va aider l'équipage. Enfin, c'est un personnage vraiment sympa. Et moi, quand j'étais au collège, que j'avais j'étais quoi, en 6e, en 5e, je le trouvais trop cool, quoi. En fait, genre, je dansais, je faisais la ballerine comme Bond Clay, donc c'était un peu mon inspiration queer, mon éveil queer, c'était Bond Clay, quoi.
T'as anticipé un peu ma prochaine question. Mais du coup, à partir de Bronclé, du coup, et de One Piece, ça a été quoi tes premiers pas dans les mangas LGBT? Est-ce que tu t'es tournée vers ça ensuite?
Alors, j'ai mis un peu de temps parce que j'étais assez fermée au... Bah, ce qu'on voyait de plus en... Moi, quand j'étais plus jeune, c'était le yaoi principalement, hein, les relations entre hommes. Et j'avais l'image, en fait, des relations stéréotypées avec des choses qui soient purement sexuelles, soit trop mal représenté, et du coup c'était des choses qui m'attiraient pas à l'origine, et ça a mis vraiment un peu de temps avant que je me plonge vraiment dans des œuvres qui soient purement des romances homosexuelles ou des romances homosexuelles féminines ou masculines. Donc je sais pas dire quelle œuvre serait la première dans laquelle je me suis engagé par rapport à ça. Faudrait que j'y réfléchisse un peu plus longtemps.
Alors justement, tu as parlé de yaoi, du coup on peut faire un petit point vocabulaire. Les mangas se catégorisent selon des termes comme le yuri, le shoujo, le shonen. Est-ce que tu peux expliciter rapidement ces termes pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas forcément?
Alors en fait, toutes ces catégories sont correspondent à un lectorat en fait. C'est au Japon, les mangas sont publiés dans des magazines qui ont un lectorat supposé, parce que c'est pas forcément même le lectorat total au fait du truc. Et donc le plus connu par exemple, c'est le shonen, qui veut dire jeune garçon au Japon, donc qui s'adresse avant tout aux jeunes garçons. Shoujo pour les jeunes filles, josei pour les jeunes femmes, donc les jeunes filles un peu plus âgées. Et donc on a des magazines comme ça qui existent, et historiquement c'est apparu assez rapidement en fait avec l'apparition des mangas. Et en France, on a aussi ces catégories-là qui sont reprises, même si de fait, des fois, ça n'a pas toujours grand sens, parce qu'en fait, ça contribue aussi à avoir des stéréotypes, notamment principalement le shoujo, qui subit beaucoup de stéréotypes sur le fait qu'on dise « Oh là là, c'est des romances à l'eau de rose pour les jeunes filles », alors que pas du tout, c'est l'un des genres les plus vastes qui existent. Donc voilà, si c'est clair, après, n'hésite pas.
C'est très très clair.
Parfait.
Pour situer ton sujet de recherche, tu t'intéresses ici à un historique des représentations LGBTQ+, afin d'en montrer la grande diversité dans les mangas. Et tu parles de l'origine des premiers mangas, et tu retraces un fil en parlant de représentations pour un lectorat très niche, mais également de ces représentations qui sont infusées dans la culture populaire. Puisqu'en final, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de personnages non hétéronormés dans les mangas qu'on ne le pense. À quel moment dans ta recherche tu as pu constater à quel point c'était riche et pluriel, ces représentations queer?
Bah, dès l'origine, en fait, dès que j'ai voulu tracer un historique, où est-ce que moi en tête, j'avais déjà quelques grandes œuvres en tête, mais que je me suis dit, bon, à partir de quand je vais commencer, je suis parti sur les années. Bon, 70, mais même un peu avant, et en prenant juste Tezuka, qui est en fait l'un des mangaka les plus connus au Japon, car c'est celui, bah même en France aussi, celui qui a mis en place le story manga, ces choses-là, où est-ce que, bah, de premier abord, la plupart des gens vont se dire qu'il n'y a pas de représentation LGBT chez lui. On trouve Princesse Saphir, qui est un shoujo qu'il a écrit, qu'il a dessiné. Où est-ce qu'on trouve un personnage au genre assez ambigu, et même si c'est pas quelque chose de conscient, bah, quand on lit toute l'œuvre et qu'on la décrypte, on peut trouver plein de représentations de ce style-là. Il a aussi fait MW, où est-ce que les personnages principaux sont littéralement deux hommes gays. Donc même si c'est une représentation très tragique, parce que clairement, c'est pas une belle représentation, mais on a ces représentations à partir de là. Moi, après, de mon côté, celle qui m'avait le plus marqué personnellement, c'était Oscar dans La Rose de Versailles, qui est aussi une œuvre que j'adore, en fait, et qui est aussi un personnage au genre très ambigu. Et on trouve des sous-entendus lesbiens aussi, à plein de moments dans l'œuvre.
Frédéric, vous êtes avec nous jusqu'à 20h, et avant de poursuivre, on va marquer une pause un peu plus grave avec toi, Mal, puisqu'on a appris ces derniers jours le meurtre de deux femmes trans.
En effet, Colin, et suite au traitement médiatique désastreux, à l'indifférence crasse des médias, Dans ce climat toujours plus délétère pour les personnes minorisées, il me semblait important d'écrire quelques mots pour leur rendre hommage. Géraldine, 30 ans, était une femme trans péruvienne arrivée en France il y a 2 ans. Elle travaillait comme travailleuse du sexe pour aider sa famille et sa mère. Elle a été assassinée, chez elle, dans son propre appartement, car elle était une femme transgenre. Angelina, femme transgenre de 55 ans, mère d'un adolescent, a elle aussi été tuée par les coups de hachette de son partenaire dans son appartement. Mais le festival des horreurs se poursuit vraisemblablement dans les médias. On y lit des unes dénuées de respect des victimes, avec un mégenrage décomplexé. On parle de femmes tuées car elles étaient des hommes. Un emploi du morinon ou du deadname à outrance. Mais face à ce manque d'humanité flagrant, lorsque la presse ose s'emparer du sujet, on se demande si ce n'est pas pire de ne pas juste en parler. C'est face à un silence glaçant de la plupart des médias, face à des énièmes féminicides, 2 en moins d'une semaine. Et ne comptons pas sur le gouvernement pour se saisir du problème.
Oui, parce que l'arsenal des lois en place n'a pas l'air d'aller en faveur de plus de sécurité pour les travailleuses du sexe mâle.
En effet, on ne peut pas compter sur les lois pour se protéger, car tantôt elles amènent à la précarisation à outrance avec la loi immigration, qui restreint particulièrement l'accès aux droits pour les personnes immigrées, notamment en matière d'hébergement, de logement, de santé, qui sont des points particulièrement critiques pour les travailleuses du sexe. Tantôt, elles empirent la situation qu'elles tentent d'arranger. Citons la fameuse loi de prétendue lutte contre le système prostitutionnel de 2016, qui n'a fait qu'enfoncer le clou de l'insécurité et de la répression en pénalisant les clients plutôt que les travailleuses du sexe. Une pénalisation plus forte du proxénétisme et une définition floue de ce dernier enfoncent en réalité les travailleuses du sexe dans une précarisation extrême. On obtient ce qui relève d'un délit de solidarité où le simple fait d'héberger une travailleuse du sexe ou lui donner une boîte de préservatifs peut être sanctionné.
Mais alors malgré tout, comment s'organisent les travailleuses du sexe pour assurer leur propre sécurité ?
Eh bien, puisque le gouvernement ne s'empare pas de la question de la sécurité, elles s'en sont emparées de leur côté avec des initiatives solidaires comme l'application Jasmine, un programme de Médecins du Monde soutenu par une dizaine d'associations qui permet de signaler les clients dangereux et d'alerter les autres travailleuses du sexe. Sur leur site, le projet Jasmine propose également des cours d'autodéfense, de ressources de santé sexuelle et mentale, ainsi que des rappels juridiques. Heureusement, des voix s'emparent du sujet, en témoigne le communiqué de presse d'AccepTester, du PSAT et du STRAS, syndicat de travail sexuel, dans Mediapart. Et elles appellent à un large rassemblement sur le parvis des droits de l'homme, place du Trocadéro à Paris, ce soir à partir de 18h. N'hésitez pas à participer dès maintenant ou après cette émission en déposant une rose blanche, symbole, je cite, de notre tristesse, de notre colère et de notre soif de justice.
Merci beaucoup, Mal. Donc tous au Trocadéro, si vous pouvez. Rugir, c'était le duo parisien électro Arigato Masai. Vous écoutez Le Lobby sur Radio Campus Paris, le rendez-vous queer du 93.9 FM. Et nous sommes ce soir donc en compagnie de Fedra Derrick, c'est l'autrice de manga Les représentations LGBT+, et c'est paru aux éditions de L'Opportun.
Alors pour retourner sur l'interview, un genre très représenté quand on parle de manga à thème LGBT, c'est le boys love ou le yaoi.
Oui.
Leur spécificité, c'est d'être créé par des femmes et ça s'adresse plutôt à un lectorat féminin. Comment expliquer le succès auprès de ce public et est-ce que le yaoi finalement touche quand même un lectorat queer?
Alors, le yaoi du coup à l'origine, bah, comme tu l'as bien dit, c'était justement principalement produit par des femmes pour des femmes. Ce qui a causé certains problèmes du coup par rapport en termes de représentation, parce que justement on a historiquement dans les yaoi en fait un personnage, le personnage un peu du bishonen en fait, qui représente en fait un jeune homme un peu au visage fin, aux cheveux longs, au corps un peu fin, aussi assez sensible, assez doux. Et cette figure-là, en fait, à l'origine, justement, elle plaît beaucoup au public japonais, à l'origine de japonaise, parce qu'elles y voient, en fait, une figure de la masculinité qui est autre que celle qu'il y avait à l'époque, donc à partir des années 80-90, de celle de l'homme dominant, aux cheveux courts, durs, au caractère un peu difficile. Donc, en fait, il y a une grande partie des lectrices qui lisent du yaoi ou du boys love, pour se retrouver en fait une figure d'équilibre dans une relation entre deux personnes, bah, deux hommes donc, qui en fait sont au même niveau et avec une figure masculine un peu idéalisée, et donc c'est ce qui causait cette dichotomie du coup, où est-ce que c'était pas forcément un public queer auquel ça s'adressait, parce que justement même une grande partie des femmes qui lisent du yaoi, pour elles l'homosexualité, en tout cas au Japon à une certaine époque et encore maintenant, ça n'est pas forcément quelque chose de naturel. Dans la fiction, ça va, mais dans la réalité, voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et donc, pour les représentations queer, pour les personnes queer, je trouve que maintenant, depuis déjà le début des années 2000, ça s'est quand même nettement diversifié. Et on a justement des critiques hein, qui sont nées déjà dans la fin des années 90. Il y a eu ce qu'on appelle au Japon la controverse du yaoi, où c'était justement un auteur, un homme mangaka qui critiquait ça en fait, qui critiquait le fait que c'était pas une belle représentation. Et depuis, il y a eu pas mal d'évolutions et on retrouve des relations qui sont beaucoup plus saines, qui sont avec des personnes trans, des fois avec des équilibres qui sont complètement différents des équilibres stéréotypés qu'on retrouvait avec le stéréotypé du hooké et du sémé, c'est-à-dire du dominant et du dominé. Maintenant, ça s'est quand même pas mal diversifié. Donc, je pense qu'il y a un public queer et même un public masculin, en fait, hein, tout simplement, en général.
Bah, justement, ça rejoint un peu ce que tu disais, parce que comme tu en parles dans ton livre, il y a certaines féministes qui disent que si autant de femmes lisent du yaoi, c'est parce que ça leur permet de subvertir les normes de genre qui sont très codifiées dans certaines romances hétéro. Mais du coup, est-ce que tu es d'accord plus ou moins avec ce postulat? Et justement, comment tu peux expliquer le fait que si ça serait pour subvertir les normes de genre, pour autant, elles ne considèrent pas l'homosexualité comme quelque chose qui pourrait exister dans la vraie vie?
Bah, je pense que c'est parce que... Enfin, comment dire? C'est le souci qu'il y a au Japon, que dans le manga, on a une très très grande liberté de publication. Vraiment, il y a moins de normes qu'en France, je veux dire, mais des fois un peu trop, hein, ça va, on autorise tout. Mais que dans la société même, en fait, tout doit être caché, tout doit être assez normé, dans le sens la famille hétéronormée, avec le mari, la femme, souvent le mari qui travaille, enfin ce genre de choses qu'on trouve beaucoup dans la société japonaise. Donc je pense qu'il y a un conditionnement social à se dire que l'homosexualité n'est pas naturelle ou n'est pas quelque chose qui peut être accepté en société, mais que dans la fiction, plus ou moins, tout est permis, et que les analyses, ce que tu disais, ce que je disais juste avant sur le fait qu'il y a une forme d'équilibre, de retrouver une figure masculine, c'est plutôt des analyses qui ont été faites, je pense, psychologiques ou autres, et donc c'est quelque chose d'inconscient en grande partie, c'est pas quelque chose de conscient en fait. Donc c'est ça aussi qui explique...
Dans ton ouvrage, tu abordes aussi des mangas dont la cible éditoriale sont les hommes gays, et qu'on appelle donc le men's love, autrefois appelé le bara, si je ne me trompe pas, et donc qui présente des personnages d'apparence plus virile et dont le propos est quand même un peu plus pornographique. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait aussi une offre pour ce lectorat gay, mais avec des histoires peut-être plus complexes, plus approfondies?
Pas vraiment, parce qu'en fait le bara c'est vraiment un sous-genre, c'est pour ça que je l'explique un petit peu, mais c'est important d'en parler parce que c'est, bah, du coup ouais, c'est, comme tu disais, c'est par les hommes, par des hommes, souvent gays pour des hommes, mais c'est un sous-genre qui est, du coup, on est moins dans les, on est des représentations du corps plus réalistes, hein, on va avoir des corps plus ronds, bah, des bires en fait, hein, des hommes poilus, ce genre de choses, qui est très rare d'ailleurs dans le manga de représenter des poils ou ce genre de choses. Mais c'est un sous-genre très pornographique, donc et très aussi beaucoup de représentations sadomasochistes, tout ce genre de choses. Donc on est sur quelque chose qui, pareil, n'est pas vraiment plus réaliste. D'ailleurs, j'évoquais tout à l'heure l'auteur qui avait critiqué à la fin des années 90 le yaoi et qui se plaignait en fait des choses écrites par des femmes pour des femmes et que c'était pas réaliste. Mais la vérité, c'est que bah, les choses écrites par des hommes, entre guillemets pour des hommes, n'étaient pas non plus réalistes et étaient aussi une représentation beaucoup trop... beaucoup trop exagéré et qui n'était pas quelque chose d'assez sincère. Donc c'est plutôt en fait dans des sur des ouvrages un peu plus tranches de vie, ce genre de choses qu'on va retrouver maintenant des représentations assez bonnes.
C'est vrai qu'on parle beaucoup du yaoi, donc par exemple Sekashi at Atsukoi, Junjo Romantica, Given, Yuri on Ice, Seven Days, Dokusei. Donc on parle que de ça. Et pourtant, tu disais que le yori était l'un des genres les plus vastes qui soient, alors que si on observe le marché du manga, les yaoi représenteraient 5% de la production totale des mangas, contre 1% en ce qui concerne les yori, donc les girls love. J'ai envie de dire, où sont les lesbiennes dans le manga? Où est-ce qu'elles sont passées? Et pour quelles raisons leurs amours sont aussi peu visibles?
Je dirais même, où sont les lesbiennes en général dans la société? Parce que c'est
merci.
Aussi...
Non, mais...
c'est il aussi... y en a dans ce studio.
Parce que c'est aussi un grand souci, quoi. Même quand je retrace, pour faire vite avant de répondre à la question, l'histoire des représentations LGBT un peu dans la société japonaise, l'homosexualité masculine, on en trouve chez les moines bouddhiques, chez les samouraïs. L'homosexualité féminine, non. Enfin, elle existe, hein, bien sûr.
Et d'ailleurs, on vous recommande notre épisode sur les droits LGBT au Japon avec une spécialiste du sujet qui s'appelle Aline Hénanger, qui est passée par notre studio il y a quelques mois. Je vous laisse poursuivre.
J'irai écouter. Et donc, sur la question sur les lesbiennes dans le manga, le problème, c'est que le yuri, bah, c'est un yuri ou girls love, c'est un genre qui est beaucoup moins développé que le yaoi ou le boys love, et qui a mis du temps, et on a moins de magazines, en fait, comme je parlais au tout début, des magazines spécifiques. En fait, il y a très peu de magazines yuri, et la plupart des yuri qu'on a en France, bah, par exemple, si on prend Blooming to You, est publié dans un magazine shonen au Japon. Enfin, certains sont entre nos mains, je suis plus sûr, mais souvent c'est publié dans le magazine shoujo ou josei. Donc en fait, le yuri a du mal à se distinguer en tant que genre à part assez populaire, alors que pourtant je pense qu'il y a un public, et bah, clairement là on voit avec la sortie de She Wasn't a Guy, qui est un yuri qui est le premier yuri sorti chez Mangetsu, il me semble, qui connaît un énorme succès, bah, ça montre bien qu'en fait il y a une demande, en fait, hein, que ce soit au Japon ou en France, et qu'il y a des choses qui sont très bien, mais ça a mis du temps. En fait, c'est historiquement, le yaoi prend ses origines vers les années 70 dans le shoujo. Alors que le yuri, c'est un peu plus compliqué, en fait. On peut trouver des titres assez peu connus au Japon dans les années 70-80. Et a posteriori, à partir des années 2000, on établit que certaines œuvres comme Utena ou même Sailor Moon sont des shoujo, sont attribuées a posteriori au yuri. Mais c'est un peu flou et du coup, il y a une représentation plus légère des lesbiennes.
Du coup, effectivement, tu disais pour le yuri qu'il y avait une vraie demande. Et est-ce que tu penses que dans cette perspective-là, que le yuri devrait être plus politique, devrait être politique tout court, en fait?
Bah, moi, oui, je pense que oui. Mais après, c'est ma vision des choses. Je pense qu'une œuvre qui a des représentations LGBT+, devrait être politique. Même si je trouve ça bien qu'on ait des fictions qui racontent des histoires avec des personnages LGBT+, sans qu'il y ait de soucis, sans qu'on ait de problèmes sociétaux, et à la fois des œuvres qui représentent ces problèmes sociétaux, ces problèmes politiques. Enfin, c'est important d'avoir les deux, mais l'essentiel, c'est que les représentations soient plutôt bonnes et pas stéréotypées, en fait.
Et on va parler un peu des questions des représentations transgenres. Donc tu cites La plaine du Kanto de Kazuo Kamimura, publié en 1976, et tu racontes comment le manga met en scène avec une certaine justesse le vécu d'une femme transgenre, entre fétichisation et dysphorie de genre. Est-ce que tu sais si ce genre d'œuvre avait tendance à faire polémique quant à leur sujet plutôt tabou dans la société japonaise?
Bah, je pense pas, parce que je pense que ça n'a pas été vu comme une œuvre engagée, ou ça n'a pas été vu comme une œuvre spécialement critiques sur le sujet. D'ailleurs, même Camille Moura n'est pas spécialement connu pour être engagé sur les sujets LGBT. Juste, il représentait des choses un peu plus osées, un peu plus crues, un peu plus, en général, en fait, de manière absolue. Donc lui, il pouvait faire polémique, mais lui, parce qu'il représentait des fois la sexualité de manière plus crue, la prostitution, enfin plein de choses. Et donc, c'est pas forcément sur cet angle-là LGBT que ça faisait polémique.
Fédéric, vous restez avec nous, car à 19h26, il est l'heure de jouer. À 19h26, je le disais, dans le lobby de Radio Campus Paris, et je vous propose un blind test ce soir. C'est pour ça que je fais des signes, pour qu'on passe un casque pour Maram. Hop, je le fais, regardez, je gère tout, c'est incroyable. Ok, et voilà, quelques-unes de nos chroniqueuses, pour ne pas les citer, Maram, Diego et Akina, m'ont envoyé les génériques de leurs animés préférés, Fédéric. À vous de les reconnaître, si vous voulez jouer Antonella et Mal, je sais que vous n'avez pas de casque, c'est un petit peu plus compliqué parce que nous n'avons pas d'enceinte dans ce studio. Allez-y, en tout cas, allez, c'est parti, on commence. Ça ne vous dit rien. Ça ne parle pas, visiblement. Ça n'évoque rien autour de la table. Peut-être Akina, tu vas pouvoir nous donner la réponse.
Oui, alors je voulais savoir si les gens ne connaissent pas, parce que c'est très connu au Japon. C'est genre la série des Pretty Cure. Okay. Et c'est genre. Je sais pas si tu connais ou pas du tout.
Là, ça ne parle pas.
C'est en gros, c'est des Magical Girls et qui se battent et tout. Avec un peu des. En fait, elles ont à la fois les codes du shoujo avec des filles qui se transforment, etc., qui se battent pour pouvoir de l'amour. Et en même temps, du shonen, puisque c'est plutôt des combats assez forts. Et il y a un peu des sous-entendus lesbiens, des fois, parce qu'il y a que des femmes. Mais c'est très populaire au Japon.
Attends, comment ça, des sous-entendus lesbiens? Bien, parce qu'il y a que des femmes. Peux-tu développer?
Disons que les fandoms, c'est-à-dire les communautés de fans, elles aiment beaucoup faire un peu des, enfin, écrire des fanfictions dessus, comme c'est des amitiés très proches et fusionnelles, quoi. D'accord. Parce que ça se concentre que sur des personnages féminins. Mais je sais pas à quel point c'est connu en France. Genre, je sais que pour la plupart des enfants japonais comme moi, bah, genre les gens grandissent avec ça. Mais je crois pas que, je sais pas à quel point c'est connu en France, quoi.
Que, tu me redonnes le nom?
En fait, c'est une série qui est toujours un peu le même truc. Ça s'appelle Les Pretty Cure. Et celle-là, c'est la première. C'est Futali One. Staline au précure, je crois.
Et on va enchaîner avec un deuxième extrait qui n'est pas très connu non plus de ce qu'on m'a dit. Alors, j'ai des regards assez perplexes dans le studio.
J'ai l'impression que ça me dit quelque chose, mais j'ai pas le nom non plus.
Ça ressemble à Cowboy Bebop, mais c'est pas Cowboy Bebop.
Bon, Maram, il va falloir nous donner la réponse.
Donc, c'est une série qui nous vient de Rio, avec une tendance funk. C'est queer, mais sans être queer, il y a un personnage caché queer. Donc, je t'invite vraiment à voir cette série.
Et comment ça
s'appelle Michiko et Hachin. Okay. Et c'est une histoire qui est pleine de sororité, avec une petite fille qui est accompagnée d'une adulte qui est très, très, très folle et qui l'embarque dans des histoires qui ne sont pas du tout possibles. Mais c'est hyper chouette. Et c'est des couleurs très pop et ça vient des années 70.
Je note.
Michiko et Hachin. On va mettre toutes ces références sur le site de radiocampusparis.org. J'aurai beaucoup de travail ce soir. Troisième extrait. Alors, qui va découvrir ce choix de Diego? Donc, c'est
oui. Mon choix aussi très niche, là j'ai choisi un animé que j'ai découvert quand j'étais très jeune et qui s'appelle Maihime, et où j'ai découvert un personnage transmasculin, et c'est vrai que je pense que ça m'a beaucoup aidé dans mes représentations, et c'est ouf. Et voilà.
Tu nous racontes un peu l'histoire?
Eh ben, je serais assez incapable.
Ah, parce que ça date.
Parce que ça date tellement. Et je vais pas savoir, mais voilà, ce personnage transmasque m'a trop marqué.
Dans Maihime.
Oui. Et c'est tellement typique, justement, du shoujo. Enfin, je pense que c'est un shoujo. Enfin, peut-être
c'est
pas.
Plutôt shoujo.
Mais des shoujos des années 70, un peu, ou jusque 80, parce qu'on a énormément de personnages trans. Enfin, c'est quelque chose, genre, d'assez.
Ce qui est toujours assez inattendu, peut-être avec un œil occidental, de se dire incroyable, dès les années 70, on pouvait en parler librement. Très bien, on passe au quatrième extrait. Akina, c'est toi qui as fait ce choix, parce que je ne te vois pas réagir et je me dis
pardon.
Ça se trouve, je suis trompée. Non, c'est bon,
si c'est moi, mais désolé, vous pouvez m'enlever ma carte LGBT, il n'y a pas de perso queer dedans, c'est juste ça. Mais moi, je crois pas. En fait,
il y avait une contrainte, Akina.
Mais en fait, j'ai pas compris, j'ai cru que je voulais juste des chansons d'animé, du coup j'ai mis un de mes mangas préférés.
Bon, alors vas-y, raconte quand même.
Bah, ok, ça s'appelle March Comes In Like a Lion, et c'est tu connais?
Ouais.
Et je trouve que c'est un des meilleurs, enfin, moi j'adore ce manga, c'est un slice of life, du coup une tranche de vie qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui a beaucoup de difficultés dans la vie. Je trouve que ça dépeint vraiment avec justesse des questions comme la dépression, le harcèlement, le fait d'aller mieux, mais de manière réaliste, sans en mode « Ah, tout va bien » ou « On va jamais s'en sortir ». Et tous les personnages sont très humains et touchants, donc voilà, désolé, excusez-moi.
Tu nous redonnes le nom ?
Marche comme Zin like a lion.
Très bien. Allez, dernier extrait. Bon, Diego, il va falloir nous révéler.
Oui, c'est bon. Alors là, du coup, c'est mon manga préféré, qui est Number 6, et que tu cites.
Ah oui, oui, ça, je
voilà.
C'est l'opening, ça ?
C'est l'ending.
Ah, c'est
et
l'ending.
Du coup, je te laisse réagir, parce que juste...
Oui, j'adore Numéro 6. Ouais, ouais, j'ai plus...
Alors, vous nous racontez un peu l'histoire avant.
Numéro 6, en fait, c'est un shoujo qui raconte une aventure... comment dire ? C'est une dystopie, en fait. Mm-hmm. Ou est-ce qu'on a un espèce de société un peu parfaite, voilà, avec un jeune garçon qui est promu, enfin je crois qu'il a 15-16 ans, je sais plus son âge exact, mais voilà, il est destiné à être l'élite un peu de cette société, ou est-ce que tout est parfait, tout est propre, tout est dans cette cité de numéro 6, et il fait la rencontre d'un autre garçon qui s'appelle Nezumi, qui est un fugitif, et il va l'aider pendant une nuit. Ce fugitif en fait, et puis ils vont plus se revoir, sauf que le fait d'avoir aidé ce fugitif, bah, le jeune garçon chiant, il va perdre un peu son statut et il va être rétrogradé et il va avoir un statut un peu nul dans la société. Et ce qui se passe, c'est que bah, ils vont être amenés à se revoir des années plus tard et qu'il va se passer quelque chose, parce que justement, comme je disais, on est dans une dystopie et on comprend que tout n'est pas si parfait que ça et qu'il se passe des choses assez étranges. Et ce qui est génial avec cette œuvre en fait, c'est que c'est à la fois une histoire un peu d'aventure, d'action, dystopique, et à la fois on va avoir petit à petit une romance qui va naître entre les personnages, mais c'est pas c'est à la fois pas le centre de l'histoire, mais à la fois quelque chose de central, et donc c'est ce qui est vachement bien avec ce manga, qui est aussi un de mes mangas de cœur.
C'est pour ça que ça t'a parlé aussi, Diego, du coup.
Oui, complètement, et puis c'était même, c'est un livre à la base,
ouais,
c'est ça,
c'est
Asano, ouais. Et après ça a été adapté en manga, et après en animé, et voilà... C'est vraiment génial.
Bon, merci beaucoup, Fédéric, d'avoir joué avec nous. Mais vous restez avec nous jusqu'à 20h. Vous êtes avec nous dans le lobby ce soir à l'occasion donc, de la sortie de votre livre Manga, les représentations LGBT+. C'est paru aux éditions de L'Opportun. On peut reprendre le fil de notre interview normale, si vous voulez.
Alors, comme tu le mentionnes dans ton livre, la représentation ne veut pas forcément dire une évolution des droits. Donc, on le rappelle que le mariage pour tous n'est toujours pas mis en place au Japon et que les personnes trans ne peuvent changer d'état civil que si elles sont stérilisées ou une opération de réassignation de sexe. D'après Le Monde, plusieurs sondages réalisés en 2023 révélaient qu'entre 64% et 72% des personnes japonaises seraient favorables au mariage pour tous, mais la loi ne passe pas, car les personnes élues au Parlement japonais sont plutôt conservatrices. Est-ce que pour toi, il y a une évolution des mentalités dans la société civile, mais qui ne se traduit pas forcément dans les lois ?
Alors, il y a une évolution dans la société civile japonaise, heureusement, depuis ces 10-15 dernières années, c'est assez net, parce que moi, un exemple que je trouve assez facile à comprendre, c'est qu'on prend Gengoro Tagame, qui est un mangaka assez connu, assez engagé, qui se plaignait dans une interview en 2006-2007 que, justement, il n'y avait personne qui s'engageait et qu'à la Pride de Tokyo, il y avait 500 personnes, quoi. C'est-à-dire rien pour une Pride d'une grande ville. Si on prend les chiffres de la Pride de Tokyo de cette année ou de l'an passé, on est sur des chiffres similaires à ceux de la Pride de Paris. Donc, en fait, au Japon, là, on a une prise de conscience de la jeunesse qui est tout aussi, en fait, ouverte à ces sujets, voire même des fois plus sur certaines thématiques. Que en Europe ou dans des pays où est-ce que le mariage est autorisé, ce genre de choses. Donc il y a une certaine prise de conscience, mais il y a en fait encore chez les gens de plus de 50 ans un esprit très 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 réactionnaire, voire plus qu'en Europe ou aux États-Unis par exemple.
Et justement, est-ce que tu penses que les mangas, ils ont joué un rôle dans le changement des mentalités au Japon vis-à-vis des personnes LGBT?
Depuis une dizaine d'années, on a des mangas qui sont véritablement sociétaux et engagés, ce qui n'existait pas avant. On pouvait avoir des bonnes représentations LGBT, mais il y a une différence entre des bonnes représentations LGBT et des représentations LGBT qui sont clairement engagées. Gengoro Tagame, dont je parlais, dans Le mari de mon frère, c'est vraiment quelque chose de tout public qui a pour vocation de montrer que l'homosexualité, c'est normal et qu'il n'y a pas de souci et que ça n'a rien de pas naturel, et ça dénonce un peu d'ailleurs il dénonce aussi les stéréotypes ancrés chez les gens au Japon. Et par exemple quelqu'un comme Yuki Komatani, qui a fait Éclat d'âme, qui a aussi fait genre une série de mangas très très ouverte et qui remet en question en fait certaines pensées.
Bah justement, la question que j'allais te poser juste après, c'était le manga Le mari de mon frère. Ouais. Mais est-ce que tu as l'impression qu'il y a peu de mangas qui ont des revendications affirmées sur les droits des personnes LGBT? Parce que peut-être que du coup, moi, je m'y connais moins que toi. J'ai l'impression que c'est quand même une minorité dans ceux que j'ai lus. Ou est-ce qu'il y a plus une augmentation ou c'est juste moi qui n'ai pas vu
Là, on a une augmentation de ce type de manga, clairement. Et puis un public aussi, hein, forcément, un public queer qui recherche aussi des choses engagées. Et je pense un public non queer, mais entre guillemets allié, ouvert à ces sujets-là, qui justement cherche à mieux comprendre. Enfin, au Japon, je ne saurais pas dire, mais moi en France, je vois des gens autour de moi qui ne sont pas directement concernés par les sujets LGBT, mais qui se disent « Ah bah en lisant tel manga, c'est aussi le but de mon ouvrage aussi, c'est aussi de toucher un peu tout le monde, et en disant « Ah en lisant tel manga, j'ai mieux compris certaines choses, notamment par rapport avec la dame ». Et voilà.
Non mais vous avez le temps de finir, hein, c'est bon, je fais signe. Je fais peur, ça y est. Dites-moi, Fédradéric, est-ce que vous êtes un peu une gameuse?
Un petit peu, ouais.
Alors, à quoi vous jouez? Racontez-nous un petit peu.
En ce moment, je joue beaucoup à Valorant.
Donc, ok, très bien, je vais faire semblant de connaître. Parce que justement, dans un instant, on va accueillir notre deuxième invité. Damnès, c'est le secrétaire de l'association Next Gamer, et c'est juste après ça. Et une sainte trinité est à l'œuvre dans ce tube de l'été, l'iranienne Sevdaliza, la drag queen brésilienne Pablo Vittar et l'incontournable Isult. Merci à Margot Page qui réalise cette émission pour la programmation musicale. Et à 19h39, un nouvel invité nous a rejoint dans le lobby sur Radio Campus Paris. Bonsoir Damnès.
Et bonsoir.
Vous êtes le secrétaire de l'association Next Gamer, une association où se rejoignent des gamers LGBT, je peux le dire comme ça.
Absolument, on est au-delà en fait du concept de gamereuse, c'est-à-dire du jeu vidéo. On rassemble aussi autour du jeu de société et du jeu de rôle.
D'accord, oui c'est ça, parce que j'allais vous demander c'est quoi un gamer, et si j'aime beaucoup jouer au tarot, suis-je un gamer?
Absolument, okay. C'est le gamer c'était surtout pour ce jeu de mots un peu nul avec le G-A-Y qu'on n'assume plus aujourd'hui parce que c'est pas très inclusif, mais voilà, on retravaille là-dessus, mais effectivement le gamer c'est la geek de l'époque, c'est-à-dire la personne qui joue à un jeu de société, à un jeu de cartes, à tout ce qui était relativement excluant à l'époque et qui est devenu hyper tendance aujourd'hui. Et on réunit tout ça.
Mais oui, j'allais vous poser la question. L'association s'appelle donc Next Gamer. J'insiste pour qu'on entende bien ce super jeu de mots. Mais vous me confirmez que c'est ouvert aussi aux lesbiennes, aux personnes trans
Évidemment, c'est extrêmement important pour nous de pouvoir inclure toutes les personnes qui désirent nous rejoindre, puisqu'on existe pour ça à la base. Hein. C'est vraiment de pouvoir offrir un safe space pour toutes les personnes qui ont été rejetées dans le milieu du jeu vidéo, notamment en ligne, parce qu'il y a beaucoup d'homophobie d'abord, très normalisée, sans savoir la connaissance du genre, de l'orientation de la personne en face. Il y a des insultes qui sont faites, donc on réunit ces gens-là. Et puis après, on travaille sur d'autres choses, c'est-à-dire désenclaver des personnes rejetées, que ce soit des personnes sorties de chez elles. On travaille avec le refuge, on travaille avec des personnes à la retraite aussi, des personnes retraitées LGBTQIA+. On travaille avec des associations d'immigrants LGBTQIA+ aussi. Voilà.
Donc lieu de sociabilité, d'échange. Et alors, la question que j'avais envie de vous poser, c'est celle aussi du militantisme. J'ai vu que vous organisiez des événements au profit de SOS Homophobie, donc il y a quand même une vraie dimension politique. Il ne faut pas imaginer juste une bande de gars derrière leur console, un petit peu coupé du monde.
Alors, c'est ce qu'on a fait au début, mais finalement, avec les années, on a réalisé que si on voulait vraiment être cohérent avec nous-mêmes et pouvoir aller de l'avant, il fallait aussi qu'on se serve de notre existence pour aller directement à la source, c'est-à-dire aller voir l'industrie du jeu vidéo notamment, pour leur dire maintenant il va falloir faire les choses un peu plus correctement.
Il y a beaucoup d'événements qui sont organisés chaque mois. Vous me disiez tout à l'heure que c'est non seulement une association nationale mais même internationale, francophone, donc des événements organisés un petit peu partout dans le monde. On va essayer de se concentrer sur Paris et notamment au début du mois, il y avait le Gamer Festival.
Alors absolument, on a le Gamer Festival qui était à Lyon. Pardon. Donc concentrons-nous sur Paris, pas de soucis. Non, le Gamer Festival, c'est quelque chose qui existe depuis maintenant 2 ans, qui est encore plus ancien, c'est-à-dire avec le Covid, on s'est dit tiens, si on faisait un petit festival online, histoire qu'on puisse compenser notre enfermement national, international. Et puis finalement, une partie des personnes en charge de ça ont décidé de porter le projet encore plus loin et l'ont, grâce à l'association étudiante l'UNIX, je crois. Je ne sais plus, je m'excuse pour des bisous. Je ne sais plus comment ils s'appellent. Mais grâce à eux, une association étudiante à Lyon, ils nous ont offert l'opportunité d'avoir des locaux. Et puis, on a commencé par faire des tables rondes avec des professionnels de l'industrie. On a commencé à faire des événements, des spectacles. La première année, puis la deuxième année, on a eu Soa de Muse, on a eu La Briochée, on a eu Arkane, on a eu Ubisoft. Plein de gens qui ont commencé à venir et c'est devenu un très très gros événement dont on est extrêmement fier.
Soa de Muse, c'est une gameuse.
C'est une gameuse. Elle s'est beaucoup amusée, oui, effectivement, sur la deuxième partie, parce qu'en plus d'être sur scène et d'avoir fait un super spectacle et notamment une partie de jeu de rôle avec l'association La Cousinade, elle a également participé aux activités sur les côtés auxquelles elle n'était pas liée par contrat, mais juste par plaisir. Donc je crois qu'elle a fait du Mario Kart et un peu de Street Fighter, je crois.
De salle de ambiance. Je vous posais aussi la question, puisqu'elle était à l'affiche de la dernière saison de Donjons et Drag, tout comme notre ami d'ailleurs Miroslav Toileman qu'on embrasse, est à voir sur la chaîne YouTube de La Bonne Auberge. Vous avez regardé, vous, Damnès, Donjons et Drag?
Alors j'attends moi toujours que quelque chose se termine pour pouvoir le binger.
D'accord, mais je crois que c'est bon, je crois que c'est fini là, non?
Oui, le dernier épisode est sorti il y a peu de temps. C'est à moi, j'attends avec impatience.
Alors cette année, une enquête de GLAAD, donc grosse asso LGBT américaine, avance que 17% des gamers se déclareraient LGBT. C'est énorme.
Ben, c'est 17%, c'est énorme. Après tout, il y a, je crois, 10% de personnes dans la population qui sont considérées comme LGBTQ+.
17% quand même.
J'ai envie de dire, c'est plutôt pas mal. Mais le jeu vidéo a toujours été un refuge pour énormément de personnes. Et même si c'est pas l'endroit qui nous a toujours le mieux accueillis, c'est quand même celui où on a la plus grande chance soit de ne plus être soi-même, soit au contraire d'être complètement soi-même. Et c'est vrai que ce sont des endroits, je comprends qu'il y ait autant de représentations.
Oui, parce que j'allais vous poser la question. Moi, vous l'aurez compris, je ne suis pas un immense gamer, mais j'ai quand même eu ma petite geek era.
Les Sims.
Avec les Sims, ok, on a les Sims Zelda, mais aussi la série Kolyoko qui empruntait beaucoup à l'univers du jeu vidéo. Et d'ailleurs, en grandissant, j'ai même lu une fanfiction yaoi entre deux personnages masculins de la série. Je fais un lien avec la première partie. Une question que je vous pose à tous les deux, vous avez un petit peu répondu, Damien, est-ce que être geek, c'est une façon de trouver des échappatoires quand on se découvre queer à l'adolescence, par exemple? Peut-être Damien pour commencer, et puis on pourra donner la parole à Fedra.
Je ne sais pas si l'un est la résultante de l'autre, mais je pense qu'il peut y avoir des comportements un peu intrinsèques, en mode je me sens différent. Enfin, moi, de mon parcours personnel, je me sentais un peu différent, je me suis auto-mis de côté et je me suis laissé emporter dans d'autres univers, que ce soit dans le milieu notamment du manga, du livre, mais aussi du jeu de société et du jeu vidéo. Et je pense que tout ça est un peu découle soit de l'un soit de l'autre.
Moi je pense aussi que le jeu vidéo c'est une façon aussi de pouvoir jouer un personnage parfois féminin ou masculin quand on est trans, ce genre de choses, et ça c'est des choses que j'ai souvent entendues et que je pense même moi-même expérimenter, qui sont importantes.
Vous le disiez tout à l'heure, Damnès, on a tendance à imaginer, et sans doute un petit peu à raison, le monde du jeu vidéo comme quand même très masculin, très même carrément misogyne, homophobe. Qu'est-ce que vous, votre association Next Gamer, elle peut apporter aux femmes, aux LGBT+, notamment aux LGBT+, qui ne sont pas des hommes cisgenres, face à toute cette misogynie, à toute cette transphobie, à cette homophobie, peut-être à ce racisme aussi qu'on peut trouver dans ce milieu?
Absolument. Comme je disais tout à l'heure, en fait, on a été créé justement pour lutter pour ça. Et la première chose qu'on a mis en place et qu'on a depuis maintenant des années, c'est notre serveur Discord qui nous sert principalement à créer ce que je disais, le mot d'ordre chez nous, c'est le safe place. Donc, en réunissant les joueuses entre elles, on leur permet de jouer et de ne pas être forcément à la merci du reste de la communauté en ligne, parce que on prend notamment un jeu qui parlera peut-être à certaines d'entre vous, mais le jeu League of Legends,
oui,
qui
est d'une
que je n'ai jamais osé y toucher, ne serait-ce qu'avec un doigt, parce que la communauté est d'une violence normalisée absolue, et s'il y a des personnes qui apprécient ce jeu mais qui ne peuvent pas subir ça et qui devrait pas avoir à le subir de toute façon. Nous, on s'occupe de soit mettre en place des serveurs privés ou d'organiser des parties entre elles, des endroits de discussion ou des moments de réunion sur place.
Je vais rebondir juste sur ce que tu as dit, mais moi, quand je parlais de Valorant, c'est justement le jeu de Riot qui a été développé après League of Legends, où est-ce qu'on a une communauté similaire, un peu pas si horrible que celle de League of Legends, mais quand même dans le même style. Et les premières fois que je jouais avec mes potes, des fois il y a des gens qui m'étaient gay dans le chat. Je dis pourquoi ils disent ça? Ils disent non, mais pour eux c'est une insulte en fait. Genre quand tu fais un truc mal, on te dit gay. Genre c'est donc il y a.
Oui, merci.
Ouais, voilà, c'était ça.
Alors maintenant, on va parler des représentations dans les jeux vidéo avec toi, Akina.
Alors oui, donc comme on a dit, l'enquête Glad dit qu'il y a 17% des gamers qui se disent LGBT, mais il y a à peine 2% de personnages LGBT dans les jeux vidéo. Comment vous l'expliquez et est-ce que cette représentation manque?
Elle manque évidemment, puisque c'est cette absence de représentation dans les instances de création du jeu vidéo qui fait qu'on a eu des représentations de personnages LGBTQIA+ aussi pauvres. Moi, je me souviendrai toujours d'une des premières représentations, c'était dans Street of Rage, où les représentations LGBTQIA+ c'était des hommes en cuir moustache qui marchaient de manière un peu à la Catwoman et qu'on devait tabasser. Donc voilà, c'est à ça qu'on a été abreuvé au début, et c'est parce que de plus en plus aujourd'hui on a des personnes issues de la communauté LGBTQIA+ qui montent en tant que directrice artistique, développeureuse, etc., qu'on commence à avoir d'autres sensibilités, d'autres représentations. Mais ça prend du temps. Le milieu de l'informatique a été extrêmement masculin, et ça met beaucoup de temps pour dire aux femmes de venir, de s'intéresser. Je prends les premières pubs d'ordinateurs, ou même les pubs de jeux vidéo, c'était destiné uniquement aux hommes, aux jeunes garçons, puis aux hommes.
D'ailleurs, on a commencé avec des Game Boy ici.
On a commencé, voilà. Et ça a mis vraiment beaucoup de temps à ouvrir de plus en plus aux femmes, en dehors des Sims, cette Candy Crush. Il y a crois plus de 50% des personnes qui sont des femmes, qui sont des joueuses dans le milieu du jeu vidéo, qui ne sont pas que des joueuses, on va dire, de manière sporadique. Donc maintenant qu'on les accepte un peu plus, il faut qu'on leur montre qu'elles aient des rôles modèles au sein de l'industrie pour dire moi aussi je peux devenir une développeuse de jeux vidéo.
On continue à parler de représentation LGBT dans les jeux vidéo dans un instant.
Le lobby.
Congratulations, Megan.
Sur Radio Campus Paris.
Parce qu'à 19h50, c'est l'heure du love, comme tous les mardis soirs désormais, et elle est toujours là pour nous raconter sa vie et ses déboires amoureux. C'est Antonella, votre bisexuelle préférée. C'est à toi, Antonella.
Quand j'ai su qu'on parlait des geeks dans cette émission, toujours avide d'occasion pour raconter ma vie, je me suis demandé ce que ça m'évoquait. Et ça m'a fait penser à un trend TikTok que j'ai vu il y a quelques temps.
Bisexual girls fall for one of two kinds of men. Number one, we have cute gamer boys with ADHD. Probably likes anime, definitely has golden retriever energy.
Donc je traduis. Les meufs bi ont deux types de mecs. Le premier, des garçons gamers avec un trouble de l'attention, fan d'anime et la vibe d'un golden retriever. Bon, là clairement je me suis sentie attaquée personnellement. C'est la description, mot pour mot, de mon dernier amoureux. Un chercheur à lunettes, mexicain, il restait éveillé jusqu'à 3h du mat pour parler avec ses copains pendant qu'il jouait en ligne à World of Warcraft. Il avait véritablement un trouble de l'attention. Il était d'une gentillesse telle qu'il était capable d'attendrir n'importe qui, même le père d'une de mes meilleures amies. J'ai le souvenir d'un dîner où ils étaient explosés de rire pendant une heure alors qu'ils n'avaient aucune langue en commun. Allez savoir. Bref, moi qui pensais être une personne originale, un scandale. J'ai eu deux autres grandes histoires d'amour avec des hommes. Mon premier amoureux, qui faisait des études d'informatique. Ses copains faisaient des blagues de maths. Je captais rien, bien sûr. Il était fan du Seigneur des Anneaux et de Star Wars. J'ai longtemps été jalouse de sa relation avec sa Xbox 360 avant qu'on trouve une solution à trois autour de Skyrim. Et ma deuxième grande histoire, c'était un garçon que je connaissais depuis le collège. On était dans le même groupe d'amis geeks slash musiciens. Et lui et moi, on passait des heures au lit à jouer ensemble à Life is Strange, un espèce de thriller interactif.
Tout le monde opine du chef dans ce studio.
Donc, à un moment, j'ai essayé de convaincre mes copines que j'avais pas un type d'homme. Et puis, j'ai vite laissé tomber. Je sors toujours avec des grands timides, à lunettes, des mecs qui passent beaucoup de temps à la maison, dont le calme n'a d'égal que mon exubérance. Bon, je vous raconte pas ma vie juste pour vous raconter ma vie, bien que si ça ne tenait qu'à moi, je le ferais bien volontiers. Mais je crois qu'il faut quand même que j'essaye de vous dire un truc un peu construit, sinon Colin va pas être content. Bon, alors pourquoi les filles bi aiment les gamer boys ? Je ne vais pas me lancer dans des grandes explications systématiques, mais je peux me demander pourquoi moi je sors toujours avec le gamer boy qui a une énergie de golden retriever. Vous allez me dire, maintenant tout le monde joue aux jeux vidéo, ok, mais tout le monde n'est pas un gamer boy. Définissons-le un petit peu. Pour moi, un gamer boy, c'est un mec qui consacre beaucoup de temps aux jeux vidéo, dont le gros de la vie sociale tourne autour de sessions de gaming. Et en y pensant bien, je pense que mon amour des gamer boys vient du fait qu'ils représentent une masculinité différente. Je vais dire un truc polémique, mais je ne pense pas que les relations hétérosexuelles soient intrinsèquement mauvaises. Je crois surtout... Attention, hein, j'enfonce, je dis des trucs polémiques. Je crois surtout qu'elles sont abîmées et corrompues par le système patriarcal dans lequel on vit, et tout son imaginaire binaire. Les hommes sont du dehors, de la vie, de l'action, les femmes du dedans, de la famille, du care. Je vais un peu vite, mais bon, on se comprend. Les gamer boys sont des mecs du dedans, du calme, de la maison. Pas des espèces de chasseurs conquérants des temps modernes focus sur leur carrière et sur leurs potes. Et j'y peux rien, je suis attirée par les hommes, ça me dépite autant que vous, parce qu'ils sont généralement un peu nazes, mais aussi parce que c'est beaucoup plus facile de sortir du patriarcat quand on ne sort pas avec des mecs cis-hétéros. Mais je crois que j'ai un espèce d'instinct qui veut contourner cet obstacle et au moins sortir d'une hétérosexualité cliché. Alors rassurez-vous, j'ai materné et fait l'infirmière pour mon lot de mecs hétéros, mais bon, au moins, j'essaye des trucs, on fait ce qu'on peut. Hein. Je suis par exemple sortie avec un mec bic, je vais y arriver. Et ça me soulageait de savoir qu'on avait la queerness en commun et qu'on pouvait en parler. Après que des mecs m'aient dit que ça les insécurisait, que je kiffe aussi les meufs parce que ça leur faisait plus de concurrence. C'est bien connu, c'est comme ça que ça fonctionne. À deux reprises, j'ai couché avec des garçons que je pensais être gays jusqu'au moment où j'ai compris qu'ils voulaient me pécho parce que ça devenait vraiment très évident. C'est-à-dire qu'on était en train de se rouler des pelles. Ils étaient très féminins, très doux, très à l'écoute, capables d'avoir une complicité avec une fille sans sous-entendu de séduction. Ils étaient bien habillés et propres, trop parfaits pour être hétéros. Et puis en fait, non. Allez, ça c'était un peu de oversharing pour la route, c'est offert par la maison. La fin du trend TikTok dont je vous parlais parle d'un second type de garçon qui plaît aux femmes bi.
And number two, we have emotional, slightly malnourished men with a facial piercing. Bonus points if he has a mullet or is currently working towards a mullet.
Donc des mecs avec une vibe un peu d'infirmier, avec des piercings au visage et un mulet. Paul Mescal, c'est toi. J'ai pas encore testé cette deuxième catégorie, mais je prends des CV si jamais.
Merci beaucoup Antonella. Damnès de l'association Next Gamer est toujours avec nous, comme Fedra Derrick qui est venue nous parler de son livre Manga, les représentations LGBT+, qui est sorti aux éditions de L'Opportun. Je n'y arrive plus, il est trop tard. 19h55, peut-être une petite réaction rapidement sur cette chronique. Damnès, je me tourne vers vous.
Elle m'a fait beaucoup rire parce que effectivement. Le petit côté Golden Retriever charrie quelques vibes en moi, j'aurais aimé le rencontrer je crois.
On parlait des représentations tout à l'heure, Akina, je te laisse poursuivre.
Alors lorsqu'on parle de personnages LGBT dans les jeux vidéo, sans doute un biais de fan, je pense forcément à Ace Attorney dont les deux personnages, j'ai mon petit porte-clés, je vois, acheté à la Japan Expo, dont les deux personnages principaux, Phoenix et Edgeworth, sont majoritairement interprétés comme étant amoureux l'un de l'autre. Pourtant, certains personnages du jeu, donc alors son nom dans la version anglaise c'est Jean Armstrong, mais en français c'est Luigi Laboca, ressemblent, oui, il y a beaucoup de jeux de mots dans les noms des personnages d'Ace Attorney, bref, sont des caricatures d'hommes gays. Du coup, comment expliquer ce décalage?
Ace Attorney, ça reste, et je pense que ça fait très bien le parallèle avec le sujet précédent, mais ça reste un jeu vidéo issu de la culture japonaise, et donc qui reprend les, on va dire, les codes et les habitudes de représentation de, pour les autres. Capcom, d'autant plus, adore faire de l'argent. Faut dire, vraiment, c'est un des studios qui fait le plus de, qui est le plus rentable aujourd'hui dans le milieu du jeu vidéo. On n'a pas l'impression parce qu'il fait que des redites de ses jeux, mais il est assis sur un trésor colossal et il prend pas de risques. Ils font des jeux pour eux, ça marche, tant mieux, et du coup ça conserve en fait les codes qu'on a l'habitude de voir de leur côté.
Bah justement, à contrario, dans le monde des fandoms, c'est-à-dire les communautés de fans, on retrouve beaucoup de fanart, de fanfiction LGBT. Du coup, comment vous expliquez ce décalage entre les communautés de fandom et la représentation LGBT qu'on voit dans les jeux vidéo ?
J'ai envie de dire, comme tout décalage entre une minorité de personnes qui créent, qui décident et qui font, et la majorité de gens qui sont une multitude différente et qui consomment. Moi, je sais que je ne prononcerai pas son nom ici, mais elle a écrit une série de livres. Et mes premiers émois, c'est sur une fanfic entre les deux héros opposés. Et du coup, voilà, à chaque fois, en fait, la communauté se réapproprie son jeu et en fait quelque chose qui n'est pas forcément prévu à la base.
On a ça aussi dans le manga avec à l'origine le doujinshi qui est en fait des fanart en fait, enfin littéralement des fanfiction de manga où est-ce qu'on rend homosexuels les personnages qui ne sont pas dans l'œuvre d'origine.
Eh ben merci à vous deux. Peut-être juste avant de se quitter, Damnès, une petite recommandation de jeu vidéo un peu queer.
Ah, je dirais aujourd'hui ce serait Hades, incroyable jeu qui a mis le personnage n'est pas forcément ou foncièrement queer, mais incroyable jeu avec une très très belle mise en avant. Le studio est très bien et je vous le conseille.
Eh ben merci beaucoup. Je rappelle donc, Damnès, vous êtes le secrétaire de Next Gamer. Comment est-ce qu'on vous rejoint?
Alors on peut aller sur nextgamer.com. On a également un Discord, une page Facebook et un lien à l'EA.
Voilà, je tâcherai de mettre tous ces liens sur radiocampusparis.org à la page du lobby nextgamer.com. Merci beaucoup Fedra Derrick, je rappelle le titre de votre ouvrage Manga 2. Les représentations LGBT+, c'est sorti aux éditions de L'Opportun. Merci beaucoup à toute l'équipe de ce soir, Margot Page à la réalisation et au micro c'était Akina, Antonella, Diego, Mal et Maram. On se retrouve la semaine prochaine en compagnie de l'artiste Mélodie Lauret à l'occasion de la sortie de son nouveau titre Respire. Ça se stream sur toutes les applications, tout comme nos émissions que vous écoutez ou réécoutez à l'envi sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et j'en passe, et aussi sur le site de Radio Campus Paris. À mardi prochain.